Aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle table ronde, nous allons parler de littérature chinoise et des différents courants littéraires qui ont vu le jour en Chine au cours de ces 100 dernières années. Une thématique hautement politique qui voit le jour donc au début du XXe siècle et qui va prendre tout son sens avec le mouvement du 4 mai 1919. Ce jour-là, près de 3000 étudiants manifestent place Tiananmen à Pékin. Ils manifestent pour protester contre le traitement réservé à la Chine par les puissances signataires du traité de Versailles, qui octroie au Japon les anciennes concessions d'une Allemagne défaite quelques semaines plus tôt. Alors cette manifestation éminemment politique, donc menée par les étudiants, va faire écho chez les intellectuels de gauche et va se transformer en un vaste mouvement culturel qui allait être pendant longtemps une sorte d'idéal et une référence notamment en littérature. Un mouvement pour une nouvelle culture, comme l'écrit Sébastien Weg, qui va formuler véritablement le projet d'une rupture moderne, capable de démocratiser les esprits et d'émanciper les individus. Pour les écrivains qui y participent, la littérature de fiction doit être le vecteur privilégié de cette transformation, de sujet en citoyen, la révolution de 1911, ayant mis un terme à l'Empire. Alors ce qui est plus important, c'est que le mouvement du 4 mai a eu des conséquences majeures en accélérant la recomposition des forces politiques intérieures en deux grands partis opposés et en suscitant une vaste contestation des fondements même de la culture chinoise, renforçant le mouvement de la nouvelle culture qui avait commencé quelques années auparavant. Alors ce mouvement du 4 mai prenait une rupture totale avec le confucianisme et l'avènement d'une littérature porteuse d'une dimension démocratique qui faisait émerger une nouvelle façon de configurer l'histoire, de produire ou de contester des normes politiques sur le rejet des schémas idéologiques de l'engagement. Qu'est devenu ce mouvement et ses animateurs au fil du temps, et notamment pendant la période maoïste? Une question qui m'a été soufflée par la lecture de celui que la scène littéraire chinoise a qualifié au milieu des années 80 de cheval noir. Je veux parler bien sûr de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, condamné à 11 ans de prison en 2009 pour avoir dénoncé à maintes reprises le post-totalitarisme chinois et demander le respect des droits de l'homme. En 1986, Liu Xiaobo dénonçait dans un article intitulé « Crise, la littérature de la nouvelle époque est entrée en crise », l'absence de créativité des écrivains chinois, partout loués pour leur capacité à briser les tabous. Il y critiquait l'école littéraire de la recherche des racines, qu'il considérait comme une retraite dangereuse et réactionnaire dans le traditionnalisme. Il dénonçait alors les tendances confucéennes d'écrivains totalement dépendants de l'État, rappelant au passage que les intellectuels devaient avant tout conserver leur esprit critique et penser par eux-mêmes, se référant par là même à ce mouvement du 4 mai 1919. Alors que l'établissement culturel chinois faisait tout son possible pour expliquer au monde que la littérature chinoise était en pleine renaissance, Liu Xiaobo lui affirmait au contraire qu'elle était incapable d'innovation. Alors pour aborder ces questions hautement politiques, encore une fois, sur lesquelles plane dans une certaine mesure l'ombre de Mao, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio Sébastien Weg. Vous êtes agrégé de lettres, responsable du Centre d'études françaises sur les Chines contemporaines, basé à Hong Kong, membre associé du Centre de recherche sur les arts et le langage. Alors vous êtes spécialisé entre autres sur les relations entre littérature, espace public et démocratie dans la Chine du 4 mai 1919 et sur le rapport au pouvoir de la littérature et du cinéma chinois après 89. À côté de vous, Noël Dutray, vous êtes professeur de langue et professeur de littérature chinoise à l'Université de Provence, spécialiste de littérature chinoise contemporaine. Vous avez effectué de nombreuses missions d'études en Chine et à Taïwan. Et puis, vous êtes le traducteur, en collaboration avec Liliane Dutray, de Ha Cheng, de Han Shaogong, de Su Tong, et puis de Mo Yan et de Gao Xintian. À côté de vous également, Zhang Yinde, vous êtes professeur des universités à Paris 3, membre du comité de rédaction de revues littéraires comparées, membre également du comité de lecture de perspectives chinoises. Vous êtes également l'auteur d'une histoire de la littérature chinoise. Alors, pour entamer ce débat, je vais vous poser à tous les trois une question sans doute un peu naïve. Mais pourquoi une telle dimension politique à la littérature et en quoi ce mouvement du 4 mai est-il fondateur, Zhang Yinde?
Dès le départ, en fait, la littérature à cette époque-là donc, s'articule avec la politique, puisqu'il y a la coïncidence entre un programme politique et social intellectuel et un programme proprement littéraire. Il y a eu la révolution littéraire qui a été déclenchée 2 ans auparavant, en 1917, et sous l'impulsion, entre autres, donc de Rousseau et d'autres. Et 1919, donc pendant ce mouvement de contestation intellectuelle, le programme de révolution littéraire a été propulsé et diffusé donc, par ce mouvement de contestation intellectuelle.
Ça veut dire, Noël Dutrec, que dès le départ, cette période, on utilise la littérature comme une arme de revendication politique ?
Oui, peut-être qu'on peut compléter en disant que ça a été aussi l'époque où les intellectuels chinois ont pensé qu'il fallait qu'ils changent de langue. Passer du chinois classique au chinois vernaculaire, au chinois moderne, disons. Et ça a été une influence très grande, puisque Rouche, dont vient de parler Zhang Yinde, Rouche a dit qu'il fallait, absolument abandonner cette littérature ancienne écrite en littérature classique parce qu'elle n'avait plus d'efficacité, qu'elle ne servait plus à rien, elle faisait à peine rêver. Il a des mots extrêmement injustes pour la littérature ancienne, mais il faut passer à la littérature moderne avec une langue claire qui puisse être comprise par tous. Et donc ça, c'était un outil, et beaucoup d'écrivains l'ont entendu comme ça, pour diffuser les nouvelles idées.
Alors, Sébastien Weg, vous avez publié un ouvrage de référence intitulé « Fiction du pouvoir chinois, littérature, modernisme et démocratie au début du XXe siècle » aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, dans lequel vous confrontez donc des textes chinois aux œuvres de Kafka, de Ségalène, de Brecht. Un travail de confrontation entre littérature et politique, plus exactement. Vous confrontez la fiction aux politiques en partant d'une question très générale qui est la confrontation du pouvoir traditionnel à l'apparition de formes politiques moderne et démocratique, trop souvent et trop vite résumée, dites-vous, sous le terme d'occidentalisation. Il y a cette recherche à cette époque de faire comme en Occident.
Oui, bien sûr. Donc bon, là, Zhang Yinde pourra en dire beaucoup plus que moi, mais il y a un courant très fort d'inspiration, d'un certain nombre de traductions d'abord, et ensuite d'écritures qui s'inspirent d'un certain nombre d'œuvres ou de courants littéraires occidentaux. Du point de vue philosophique, bon, la critique du confucianisme se fait elle aussi souvent au nom de quelque chose qui est revendiqué comme l'héritage des Lumières. Avec l'idée que le confucianisme, c'est l'obscurantisme, et donc il faut apporter des lumières, il faut apporter la science. Donc on n'a pas encore dit que les slogans, enfin les personnages phares du 4 mai sont science et démocratie, donc monsieur science et monsieur démocratie.
Et puis Abba, la boutique de Confucius.
Abba, la boutique de Confucius. Il y a effectivement une occidentalophilie ou un occidentalisme qui est revendiqué. Après, quand on regarde dans les détails, les choses sont bien sûr beaucoup plus compliquées.
Liu Xiaobo réfléchit sur cette période. Non seulement il réfléchit donc sur l'héritage donc dit des Lumières, mais aussi sur toutes les conséquences entraînées par l'arrière-plan nationaliste, en fait, qui accompagnait ces formidables mouvements de contestation intellectuelle.
Alors, dans ces années 20-30, le Parti communiste chinois est en pleine constitution. Il se passe quoi à ce moment-là ? On utilise ces courants littéraires dont on vient de parler, qui émergent à partir de la fin des années 10, pour développer, en tout cas pour étayer, une forme d'idéologie communiste, Yin Zhang ?
Il y a eu en effet une radicalisation politique qui a été opérée donc, au cours des années 1920 avec la création notamment d'une société littéraire qui s'appelle Le Soleil et avec le retour d'un certain nombre d'écrivains de l'Union soviétique comme Tchouchoupa, etc., donc, qui ont rapporté dans leur valise donc, les idées marxistes et version souvent léniniste et parfois dans les années suivantes, donc stalinienne. Au début des années 1930, la Ligue des écrivains de gauche donc, a été fondée, mais de façon indépendante de l'idéologie communiste. C'est vraiment le contexte de la guerre qui va éclater donc, en 1937, qui va orienter un grand nombre d'écrivains dans l'engagement plutôt communiste.
Enfin, on peut dire aussi que il y a eu ce débat sur la tour d'ivoire. Est-ce que l'écrivain doit rester dans sa tour d'ivoire ou se lancer dans l'action révolutionnaire, etc. Donc, il ne faut pas croire que toute la société des intellectuels chinois, tout le monde était politiquement engagé. Il y avait toute une large part de la littérature qui était une littérature de divertissement, voire même une littérature qui était contre les mouvements engagés et qui prônait la beauté de la littérature en elle-même, la littérature pure, la voix du troisième homme, enfin, ce genre de voix. Et peut-être que c'est après, avec le fait que la Chine est devenue un pays entièrement politisé, qu'on a peut-être un petit peu grossi l'influence. Enfin, je ne sais pas si Zhang Yinde est d'accord, mais il me semble quelquefois on a tendance à un peu trop insister sur l'aspect politique de cette littérature.
Alors justement, en 1949, Mao proclame la naissance de la République populaire de Chine. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là pour tous ces courants littéraires, Sébastien Weg?
Il y a une partie, bien sûr, des écrivains qui quittent la Chine, qui vont à Taïwan avec les troupes nationalistes, ou bien qui partent aux États-Unis. Enfin, on pense à Zhang Ailing, un écrivain femme qui est devenue célèbre très jeune à Shanghai sous l'occupation japonaise dans les années 40, qui est partie d'abord à Hong Kong et ensuite aux États-Unis. Mais bien sûr, il y a aussi une grande part de la scène littéraire qui reste en Chine, bon, pour partie par adhésion au programme communiste et pour partie par attachement à leur lieu de travail. Donc, y compris certains écrivains qui avaient passé la guerre à l'étranger, donc je pense à Lao She, alors là, c'est pas la guerre, mais bon, qui était parti aux États-Unis en 1946 sur un programme financé par le département d'État américain. Donc il y a eu une indéniable force d'attraction du nouveau pouvoir en 1949, du pouvoir communiste, qui est dû surtout au discrédit complet du gouvernement nationaliste et puis au prestige des idées de gauche dans les milieux culturels. Donc il y a une période, disons, de quelques années, enfin au moins de 2-3 ans, cette période, l'historiographie l'a réduite de plus en plus. Avant, on pensait qu'on pouvait parler de peut-être 8 ans, de lune de miel entre les intellectuels et le pouvoir communiste jusqu'au mouvement anti-droitier de 1957. Maintenant, on a plutôt tendance à dire que c'est peut-être 2 ans, enfin 2-3 ans, donc jusqu'à la collectivisation des terres, la collectivisation en ville, donc les mouvements qui ont lieu au début des années 50. Et puis, bon, bien sûr, les sans-fleurs et le mouvement anti-droitier qui, marque vraiment une rupture entre les intellectuels, les écrivains et le pouvoir communiste.
Vous évoquez les sans-fleurs, période où Mao élimine un certain nombre d'intellectuels. La littérature devient un outil de propagande, Noël Dutré ?
Bon, c'était déjà fait en 1949. Simplement, il y a quelques intellectuels extrêmement courageux qui ont essayé de protester. Je pense par exemple à Hu Feng. Hu Feng a écrit au comité central en disant qu'il fallait cesser de planter les 5 poignards dans la tête des écrivains. Et ces poignards, c'était l'idéologie obligatoire, etc., etc., le rôle de la littérature au service du parti. Et l'affaire Hu Feng a fait un bruit terrible, puisque ça a été le début de la répression des intellectuels et surtout des écrivains. C'est-à-dire que Hu Feng demandait pas du tout qu'on renverse le socialisme, c'est pas ça du tout. Il disait, laissez-nous écrire, sinon on n'arrivera jamais à écrire des choses qui aient un contenu, qui soit pas forcément une arme de propagande. À partir de là, ensuite, le mouvement des sans-fleurs éclate, où, dans un premier temps, on laisse la liberté aux gens de s'exprimer. C'était un piège terrible, puisqu'ils ont osé écrire des choses réelles sur le pouvoir. C'est la première fois qu'on y voyait clair sur ce qui se passait en Chine à travers le quotidien du peuple. Quand on retrouve les quotidiens du peuple de cette époque, c'est extraordinaire de lire des articles aussi dangereux. Et seulement après, il y a le mouvement anti-droitier qui éclate et c'est la répression. Donc à partir de là, effectivement, il y a très très peu d'écrivains qui ont pu s'exprimer, non pas librement, mais arriver à dépasser les frontières pour essayer d'exprimer des choses profondes.
C'est la mort de la littérature à ce moment-là, Yin de Zhang ?
D'une certaine manière, effectivement. D'abord, c'était quand la littérature subsistait, donc c'était le triomphe donc, du réalisme socialiste, d'une part. Et autour de 1957, un grand nombre d'intellectuels et d'écrivains donc, ont été victimes, évidemment, de cette campagne pour être exilés, par exemple, dans le cas de Wang Meng, qui a été donc exilé dans le Xinjiang après avoir écrit l'année précédente une nouvelle un peu subversive en parlant donc d'un jeune un peu révolté qui a été nommé donc dans le département de l'organisation comme on disait. Donc Wang Meng a été exilé, mais dès le 1949 le choix a été divers chez les écrivains. Certains d'entre eux ont décidé de collaborer avec le nouveau régime, mais d'autres ont préféré garder le silence ou ont préféré la renonciation. Dans le cas de Shen Chongwen, par exemple, un écrivain extrêmement connu et actif dans les années 1930, donc a choisi de se taire, enfin sur le plan créatif, pour se consacrer désormais exclusivement à la recherche archéologique. Et d'autres continuer à exister avec une stature tout à fait institutionnelle, comme Pa Qing, mais qui n'a plus rien d'écrit de créatif. Ça aussi, c'est extrêmement illustratif donc, de la situation politique de l'époque.
C'est-à-dire que tous ces jeunes écrivains qui avaient participé à toutes ces revues littéraires après le mouvement du 4 mai 1919 et qui étaient plutôt enclins à aller vers ces idéaux communistes, ils servent la soupe au pouvoir ou ils continuent à développer une forme de littérature telle qu'on pouvait la voir dans ces revues justement engagées ? Sébastien Weg.
Non, enfin, je crois pas qu'il y ait vraiment de littérature de sa mise date en Chine. Il y a des écrivains qui se taisent ou bien qui publient des textes qui correspondent à ce qui est demandé par le pouvoir. Enfin, on peut donner l'exemple de Lao She, puisque enfin, bon, c'est un exemple que je connais un petit peu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Lao She n'a presque plus écrit de textes narratifs après 1949. Il n'a plus écrit que des pièces. Et ces pièces sont conçues de façon très évidente comme un dispositif de propagande, c'est-à-dire que c'est des pièces qui sont liées aux campagnes de collectivisation, c'est des pièces d'agit-prop. Alors bon, il y a sa grande pièce tardive, La Maison de Thé, qui elle est beaucoup plus complexe, qui est pas une pièce de propagande, mais qui d'ailleurs a eu beaucoup de difficultés. La première mise en scène a connu des problèmes, enfin, quand même a été monté, et il a écrit une autobiographie finale peu avant sa mort, par suicide ou mort violente, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais sous la bannière rouge pleine, qui fait référence non pas au drapeau communiste, mais aux bannières mandchoues. Donc il y avait quatre bannières, je crois, enfin plusieurs bannières mandchoues. Donc son Lao She, qui était mandchou, avait un père qui était un soldat des bannières. Donc cette autobiographie, à ma connaissance, a été publiée seulement après les réformes. Elle n'a pas été publiée en Chine avant la fin de la révolution culturelle.
Noël Dutray.
Oui, moi j'ai l'impression que un grand nombre d'écrivains jouaient le jeu, pensaient que c'était bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même la Chine en 49 tout d'un coup se retrouve maître de son destin, les nationalistes y trouvent leur compte, il y a la guerre de Corée où pour la première fois les troupes chinoises sortent des frontières sans être obligées de rentrer de manière pitoyable comme elles l'ont fait pendant presque 100 ans. Il y a eu un enthousiasme, je pense, d'un certain nombre d'intellectuels pour ce régime qu'ils ont servi en écrivant effectivement des choses. Moi, j'ai travaillé sur un genre qui s'appelle la littérature de reportage. J'avais fait ma thèse là-dessus et qui montre que finalement, il théorisait là-dessus en disant comment sera-t-on les plus efficaces pour écrire, pour soutenir le parti, tout simplement, avec beaucoup de conviction. Alors souvent, ça s'est très mal terminé pour eux, hein. Mais d'ailleurs, l'un des personnages clés des années 30, c'est Mao Dun, qui est devenu ministre de la Culture après, hein, et qui a réprimé ses anciens collègues. Enfin, c'est
Momojo.
C'est Momojo, etc. Il y a des grandes figures qui ont servi le pouvoir avec beaucoup de conviction. Hein. On ne peut pas leur enlever ça, en tout cas.
Alors, justement, Jean Guindeu, un certain nombre d'intellectuels se sont servis de la littérature, des Lumières. On dit même que certains maoïstes très convaincus se sont servis des idéaux de la Révolution française pour nourrir un petit peu leurs travaux et leur écriture. À cette période-là, c'est terminé, la Révolution française n'existe plus, l'influence de cette Révolution n'existe plus.
Je crois que, paradoxalement, il y avait une certaine continuité donc soulignée par Noël Dutray. Les intellectuels et les écrivains chinois avant 1949 ou après 1949 ont toujours été animés par la même conviction vis-à-vis d'un régime qui incarnait, selon eux, donc les idéaux du progrès, donc des Lumières. Et alors c'est pour cela qu'au lendemain de la Révolution culturelle, et même avant, et pendant les campagnes répressives successives, l'amertume était d'autant plus grande qu'ils adhéraient par conviction donc, à ce régime, à cette idéologie, pas toujours sous contrainte. Et les contraintes existaient, mais c'était un choix très souvent délibéré de leur part.
Je voudrais aborder avec vous la question de ce mouvement littéraire, justement, qui naît au lendemain de la Révolution culturelle, ce mouvement dit des cicatrices. Les Chinois peuvent désormais parler de la douleur vécue au cours de ces années, sans toutefois avoir la possibilité d'aborder la responsabilité politique de Mao. Alors, cette littérature est apparue en Chine à la fin des années 70, alors qu'un regain de liberté voyait le jour vis-à-vis des intellectuels et des écrivains, notamment suite au procès de la Bande des Quatre, et la critique officielle de Mao, qui intervient juste après sa mort, donc en 76. Beaucoup d'écrivains ont alors exorcisé un passé marqué par le réalisme socialiste et la littérature officielle, en offrant une vision crue et directe de la société chinoise, marquée notamment par les traumatismes de cette période maoïste. Et suite à la poésie obscure des années 70, forme d'expression clandestine dite école de Menglong, la littérature des cicatrices assurera une transition en forme d'exutoire avant l'apparition d'auteurs engageant une recherche identitaire et parfois un dialogue avec l'Occident. Alors, cette littérature des cicatrices, comment est-ce qu'on peut la caractériser ?
Au sens strict, la littérature des cicatrices, c'est vraiment un petit ensemble d'œuvres qui, à partir de 78, et puis surtout après la résolution sur quelques questions d'histoire du parti en 1981, s'inscrivent dans la ligne officielle qui est de dénoncer un certain nombre d'excès. Donc la Révolution culturelle est officiellement condamnée et donc il devient tout à fait possible de traiter un certain nombre de problèmes liés à la Révolution culturelle. Ce qu'il n'est pas possible de traiter, c'est la question du régime, c'est-à-dire la Révolution culturelle comme manifestation d'un certain type d'organisation politique. Donc les cicatrices, enfin l'idée de la blessure, c'est en quelque sorte, comme le disait à l'instant Zhang Yinde, elle engage la question du rapport des intellectuels ou des écrivains chinois au pouvoir. Donc, d'une certaine façon, les écrivains ont été sacrifiés au cours de la Révolution culturelle. Et enfin, on disait, vous demandiez à l'instant, est-ce que personne n'écrit ? Enfin, souvent, beaucoup de monde pendant la Révolution culturelle n'avait pas la possibilité matérielle d'écrire. Hein, donc, dans cette littérature de cicatrices, il y a une sorte de tendance à suggérer que finalement le problème était peut-être que ce mouvement, enfin que le mouvement de la Révolution culturelle elle-même n'était peut-être pas tant en cause que le fait que les intellectuels avaient été mis de côté ou n'avaient pas le rôle dirigeant qui leur revenait de droit dans le dispositif politique chinois. Alors là, je force un peu le trait, c'est vrai que c'est pas forcément aussi noir et blanc, mais il y a quand même l'idée que on a fait du mal aux intellectuels alors qu'on n'aurait pas dû, et il n'y a pas du tout de réflexion sur la Révolution culturelle comme mouvement qui dépasse simplement les doléances des intellectuels, donc la question du régime politique.
Il faudrait peut-être se rappeler les faits, c'est-à-dire que ce mouvement littéraire qui a été éphémère, à vrai dire, à l'immédiat lendemain de la révolution culturelle, donc entre 77 et 78, avec d'abord la publication d'une nouvelle qui va beaucoup parler d'elle, écrite donc par Liu Xinwu en 1977, qui s'appelle « Le professeur principal ». C'est l'occasion de nous rappeler que Liu Xinwu vient de publier donc un magnifique texte, les mémoires, qui s'appelle précisément « Je suis né un 4 juin », en se référant évidemment à sa vraie date de naissance en 1942, mais c'est une allusion explicite aussi à l'événement que l'on connaît. Et alors donc le professeur principal qui va déclencher ce bouillonnement littéraire qui consiste à réhabiliter l'humanisme bafoué, mais le texte qui va initier l'appellation de la littérature des cicatrices sera donc publié l'année suivante avec donc une nouvelle éponyme qui s'appelle Cicatrice ou La Plaie, écrite par un jeune étudiant à l'époque qui était à l'université de Fudan en première année d'études de lettres, Lu Xinhua, et qui n'a plus rien écrit par la suite d'ailleurs, qui mettait en scène justement tous ces traumatismes vécus, et entre autres donc la séparation d'une fille et d'une mère, que la fille a dénoncée comme traître, qu'elle va retrouver morte 8 ans après. Et alors donc c'était ce schéma narratif qui dominait la scène littéraire pendant quelques années. Alors je voudrais peut-être souligner une chose, c'est que la poésie dite obscure n'était pas au diapason exact avec la littérature de cicatrices. D'ailleurs, à un moment donné, donc l'un des poètes emblématiques de cette mouvance littéraire qui s'appelle Bei Dao, qui a écrit à l'adresse de Liu Xinwu, « Réveille-toi, Liu Xinwu », pour dire que, en fait, cette littérature des cicatrices était encore loin de se débarrasser donc du schéma du réalisme socialiste, même en mettant une nouvelle thématique donc en avant. Finalement, cela obéissait encore exactement au même schéma. Alors, pour Bei Dao, donc la révolution venait de cette littérature dont la gestation se situait pendant la révolution culturelle. C'était la poésie qui a émergé donc de façon tout à fait clandestine donc à partir de 1972, 13, 14, etc. pour voir le jour donc au lendemain de la révolution culturelle.
Alors on dit de ces auteurs qui vont se dépeindre comme des êtres qui supportent toutes les souffrances de l'existence, ils acceptent docilement leur destin misérable. C'est l'histoire terriblement bouleversante d'êtres vivants mais morts, qui représentent des citoyens idéaux pour la nouvelle société. Les sujets ne sont-ils que de simples victimes sans aucune responsabilité vis-à-vis de l'histoire, Noël Dutray?
Oui, je crois que ce que vient de dire Zhang Yinde est capital, c'est ce retour de l'humanisme. Parce qu'il faut penser que pendant la révolution culturelle, on devait dénoncer ses parents. Si ses parents avaient dit quelque chose critiquant le président Mao, un enfant était tenu d'aller dénoncer ses parents. Donc là, il y a un retour à l'humanisme, c'est-à-dire le maître d'école, là, le professeur principal, va chercher les raisons pour lesquelles tel enfant est un délinquant. Et il n'ira pas dire que c'est de la faute de la bande des quatre ou de Mao Zedong. Non, c'est les valeurs humanistes. Et c'est ça qu'on lit dans tous ces textes de la littérature de cicatrices.
Quelque chose qui m'échappe, comment est-ce qu'on peut d'un côté avoir ce retour de l'humanisme dans cette littérature des cicatrices sans jamais pouvoir aborder la responsabilité politique?
Non, je crois qu'il y a l'idée que le parti s'est trompé. Le président Mao avait 70% de bons, 30% de mauvais, donc sur les 30%,
ça, c'est ce que Deng Xiaoping déclare en 1981, voilà. Mais ce courant naît, cet humanisme dont vous parlez réapparaît avant, à partir du moment où Mao meurt.
Il y a deux choses, c'est qu'on ne franchit pas une certaine limite, parce qu'on est sûr de plus pouvoir écrire, ça je pense que c'est intégré par un certain nombre d'écrivains, et puis ensuite on se rassure en se disant le parti s'est trompé, mais maintenant on est reparti sur la bonne voie, c'est reparti.
Il y a l'idée, la critique du maoïsme, y a une continuité intéressante avec le mouvement du 4 mai qui est l'idée des Lumières. Et donc, l'humanisme, il est sous le signe des Lumières. Donc, l'idée, c'est que, en réalité, le maoïsme visait à faire le bien, mais a fini par faire le mal parce que il était encore trop sous la coupe des forces obscures, de l'ignorance paysanne. C'est un grand thème hein, de critique du système politique traditionnel, c'est-à-dire que sous Mao, on retrouvait quelque chose qui était la Chine éternelle, la domination du monde paysan sur les intellectuels, en nombre, hein, s'entend. Mais, ça, c'est une façon d'articuler les choses. Donc la réponse à ça, c'est qu'il faut encore des lumières, il faut continuer à promouvoir la science. C'est des négociations. Hein. C'est pas, il faut regarder les textes. Il y a des textes qui détonnent aussi. Par exemple, si on pense au texte de Yang Jiang, hein, les six récits de l'école des cadres, qui est un texte tout à fait atypique dans ces textes post-révolution culturelle, donc qui est l'œuvre d'une prof d'université intellectuelle de très haut niveau, la femme de l'écrivain Tian Zhongshu, qui en fait utilise les ressources de la littérature traditionnelle, l'ironie, le sous-entendu, un certain nombre d'allusions pour tourner en dérision en fait la totalité du mouvement d'envoi à la campagne des intellectuels pendant la révolution culturelle. Donc, première partie de la révolution culturelle, donc l'envoi des cadres dans les écoles du 7 mai. Donc ça, c'est un exemple d'une œuvre finalement originale et qui fait éclater ces cadres. Donc on ne peut pas non plus dire que toute la littérature de cette époque est contenue dans un schéma complètement stéréotypé. Mais c'est vrai que, de fait, il n'est pas très difficile d'arriver à concilier. Si on est un jeune écrivain et qu'on veut faire carrière au début des années 80, il n'est pas très difficile de concilier la critique de la révolution culturelle, de la bande des quatre et un certain humanisme, disons le retour à une certaine tradition de réalisme plutôt de gauche.
Jin Dejiang, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je crois que quand on se resitue dans le contexte de l'époque, on se souvient que c'était encore moins libéré d'une certaine manière. On se souvient donc d'un texte écrit par Bai Hua qui s'appelle « Amour amer » et qui faisait donc l'objet d'une critique virulente parce qu'il y a eu une adaptation cinématographique dont la scène ultime montre un énorme point d'interrogation pour dire que les intellectuels aimaient donc le parti. Est-ce qu'il y a eu le retour? C'était ça l'interrogation. Donc la moindre interrogation, le moindre doute vis-à-vis du parti, donc était condamné systématiquement. Il y a eu à ce moment-là, au début des années 1980, deux campagnes répressives successives, dont faisait l'objet d'ailleurs Kao Xingjian avec ses pièces de théâtre, notamment l'arrêt d'autobus, puisque on croyait capter donc une des velléités dans la remise en cause donc, du rôle du parti. Et ça s'appelait la campagne contre le libéralisme bourgeois, contre la pollution spirituelle.
Alors justement, j'allais venir à cette politique de lutte contre la pollution spirituelle. Il n'y a pas à ce moment-là une littérature, je dirais, underground? Je pense à cette poésie clandestine ou à ces courants qui vont se distribuer sous le manteau dans certains milieux pour échapper justement à cette politique de lutte contre la pollution intellectuelle, Noël Dutrait.
Non, je crois que ce qui s'est passé, c'est que on a les gens qui ont fait la poésie obscure ou qui ont écrit des textes qui ont été controversés au début des années juste après la révolution culturelle, ils sont entrés dans les revues officielles. C'est ça qui est assez intéressant. À cette époque-là, la revue Littérature du Peuple a accueilli les nouveaux, ceux qui contestaient en quelque sorte le régime, mais de manière extrêmement de biais, disons, sans le contester de face. Et on allait tous les mois ou tous les six mois d'affaire en affaire. L'affaire de tel texte qui est passé dans la revue Littérature Populaire dirigée par Liu Xinwu, etc. Et chaque fois, il y avait des affaires. Et je me rappelle l'affaire de la pollution spirituelle. On avait dans notre département à Aix-en-Provence un professeur chinois, un intellectuel qui aimait beaucoup écrire, qui adorait la littérature. Et il avait trouvé que le nombre de pigeons à Paris, c'était extraordinaire de penser que les Français pouvaient avoir tous ces animaux sans les manger. Et je ne lui avais pas dit qu'en France, on adore manger les pigeons. Et il a écrit un article très lyrique là-dessus qu'il a envoyé à une revue en Chine. Et à ce moment-là, on lui a répondu non, c'est pas du tout le moment de faire ça. C'est la lutte contre la pollution spirituelle. Tu fais la louange d'un pays capitaliste, etc. Bon, ce qui est rassurant à cette époque-là, c'est que le mouvement, finalement, a duré très peu de temps. Hein. Ça a capoté assez vite. Parce que les intellectuels n'en voulaient plus. Je crois qu'ils n'avaient pas besoin d'agir clandestinement. C'était quasiment ouvertement que les gens commençaient à protester, à écrire des textes de plus en plus. Et puis alors, une chose que je voudrais ajouter, c'est qu'à cette époque-là, les traducteurs chinois ont fait un travail extraordinaire. Ils ont traduit à tour de bras pour rattraper le retard. Ils ont traduit du japonais, de l'anglais, de toutes les langues pour que les Chinois puissent lire assez facilement la littérature du monde entier.
Peut-être une chose que je pourrais rajouter, c'est bon, il y a cette typologie de Lizzo qui est assez commode. Hein. Il parle de la dichotomie des lumières et de l'engagement, en fait, enfin du Tiowang, donc du sauvetage du pays, les lumières et l'engagement. Enfin, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Donc c'est une sorte de dialectique qui définirait les allers-retours des positions des intellectuels chinois tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire qu'ils sont toujours partagés entre les idéaux universels des Lumières et la nécessité de faire ce qu'il faut pour que la Chine renaisse, pour que le pays puisse progresser, pour que le pays soit fort. Donc, dans les années 80, ça se traduit par... je crois qu'il n'y a pas vraiment lieu de d'écrire des samizdats. Enfin, bien qu'il soit possible d'envoyer des textes à Hong Kong, bon, il y a des choses qui sont sorties à Hong Kong des années 80, mais il y a quand même un consensus d'une certaine façon dans les années 80 entre une frange du pouvoir réformiste qui a des intérêts communs avec les intellectuels. Donc les intellectuels n'ont pas non plus intérêt à déborder cette frange réformiste. Sur sa droite, si je puis dire, enfin, du côté du libéralisme, parce que cette frange était montée dans le parti et on avait bon espoir qu'elle réussirait à mettre dehors les vieux barbons maoïstes, les derniers restants, et donc que finalement tout pouvait converger. Donc il n'y avait pas besoin d'aller forcément plus loin, alors sauf certains cas extrêmes comme Liu Xiaobo qui, dès cette époque, détonne un peu par ces prises de position. Mais rétrospectivement, je ne sais pas si Noël et John Indes sont d'accord, mais quand on regarde la littérature ou même la scène intellectuelle aujourd'hui, on est frappé par contraste, par le consensus qui existait dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y avait une convergence entre les élites politiques et les élites intellectuelles. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Personne n'est d'accord. Il n'y a plus du tout de coalition ou d'alliances possibles ou de programmes minimum possibles.
Zhang Yinde.
Oui, je suis entièrement d'accord. Effectivement, les cas de dissidence étaient assez rares, sauf par exemple la revue Jingtian aujourd'hui, donc dirigée par Pédoc, et donc qui a émigré parce qu'ils ont placardé donc leur texte sur le mur de démocratie avec l'implication des personnalités comme Wei Jingsheng et donc les partisans de ces mouvances littéraires dites poésie obscure. Mais sinon, effectivement, il y avait une grande convergence entre donc, le choix des intellectuels et des écrivains et le projet collectif, donc de la modernisation. Et alors, on comprend mieux donc, le positionnement de Liu Xiaobo vis-à-vis de toutes ces mouvances littéraires des années 1980, c'est que ce soit la littérature des cicatrices, que ce soit plus tard la littérature de la quête des racines, en fait, on embrassait le même projet de la modernisation et qui consistait à tourner la page vis-à-vis du traumatisme du passé immédiat et également du passé en général, pour s'orienter vers l'avenir. Et alors, c'est ce consensus qui devait révolter Liu Xiaobo, qui voyait donc dans ce concert donc, de la renaissance de la nation le danger, justement, auquel étaient exposés les intellectuels, dans le sens où ils perdaient précisément les valeurs des Lumières, en référence à l'Occident, dans le sens plein, donc dans la définition occidentale de la position des intellectuels, c'est-à-dire leur position par rapport au pouvoir.
Noël Dutreil.
Je pense que toute réflexion sur qui sommes-nous, d'où venons-nous, surtout, ce qui est intéressante, parce que Han Xiaokong, finalement, les questions qu'il se pose ou qu'il exprime par ses textes, c'est finalement de dire qui sont les Chinois. Je dis toujours, s'il y a un peuple qui sait d'où il vient, ce sont bien les Chinois. Mais il se pose des questions plutôt sur les sociétés chinoises maoïstes, précédemment avec l'empire mandchou, et puis le confucianisme. Et donc, dans son texte Papapa, qui est un texte aussi qui a fait beaucoup couler d'encre, il montre, il y a une espèce de rousseauisme presque dans ce texte. Il montre finalement deux villages qui se font une guerre dans un lieu improbable et dans une époque improbable et où on finit par s'entre-dévorer en reprenant le thème de Lu Xun du cannibalisme. Donc on a l'impression que Han Xiaokong, il veut faire table rase là, de tout et repartir de ça pour écrire une littérature dont il pensait qu'elle serait plus ouverte sur le monde entier si elle savait d'où elle venait. Voilà, c'était cette théorie. Et je pense qu'elle a eu son importance. Et d'ailleurs, est-ce que ça a été un encouragement pour Moyenne? J'en suis pas sûr, mais Moyenne a procédé un peu de la même manière en se disant « J'écris sur mon village natal, sur mon pays natal. » Et peu à peu, on s'aperçoit qu'il écrit des livres extraordinaires parce qu'il a su s'appuyer là-dessus au lieu d'aller chercher des histoires abracadabrantes comme l'ont fait d'autres écrivains qui n'ont eu que des succès extrêmement rapides.
Près de 40 ans plus tard, Moyenne devient prix Nobel de littérature en 2012. Lui va rechercher ses racines dans les années 80. Il va revisiter son histoire.
Alors, encore une fois, paradoxalement, il accède donc au prix Nobel en se référant à Lu Xun. Le modèle de Moyenne, s'il y en a un, c'est vraiment Lu Xun. Et alors, je pense que Moyenne donc, a eu un parcours un peu différent par rapport à la mouvance littéraire dite « la quête des racines ». Même si la critique donc, a tendance à l'attacher avec la publication donc, du clan du Sorgho en 1986, avec l'adaptation cinématographique donc réalisée par Zhang Yimou et qui sera donc primée à Berlin en 1988. Moyenne donc est d'origine paysanne et rurale, contrairement donc aux initiateurs de la quête des racines, qui eux étaient des jeunes instruits, donc rentrés en ville. Ils écrivaient sur leurs expériences vécues dans les régions souvent périphériques donc, dans lesquelles ils ont été envoyés à partir de 1969. Donc ce n'est pas par nostalgie que Moyen écrit sur son pays natal. D'ailleurs, c'est ça qui le différencie d'autres écrivains comme Garcia Marquez ou William Faulkner, que l'on cite souvent par rapport à Moyen. Parce que c'est un pays exactement référentiel. Bon, même s'il y a une part une part mémorielle et une part même mythique extrêmement importante, mais il a su réinventer cet espace imaginaire et mythique à partir de véritables ancrages donc géographiques et physiques. Et donc c'est très très différent. Lorsqu'il a fondé sa république littéraire à partir de son pays natal et non pas à partir d'un pays, par exemple, où ces jeunes instruits ont vécu pendant un temps déterminé.
Alors, Sébastien Weg, ça veut dire que Lucio Aubo a tort quand il dit que la littérature d'aujourd'hui aurait complètement rompu avec les idéaux du 4 mai et ne serait qu'une répétition de la littérature ancienne.
Bon, je ne pense pas que Moyenne renie les idéaux du 4 mai, même si bon, on mesure quand même un certain écart, effectivement, même si il se revendique de Loussune. Bon, enfin, effectivement, il a traité son rapport à Loussune de façon très, très marquante dans Le pays de l'alcool, où il y a des chapitres qui sont en fait des pastiches de nouvelles de Loussune. Enfin, donc, c'est intégré dans une sorte de réécriture. Mais effectivement, qui est pas particulièrement critique vis-à-vis de Loussune. Enfin, le pays de l'alcool, d'une certaine façon, c'est la mise à jour post-Tiananmen de l'appel aux Lumières, à la dénonciation du cannibalisme comme facette de l'obscurantisme. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément de grande rupture. Ce qui est peut-être un petit peu divergent, c'est que Moyenne représente effectivement une tradition qui, enfin peut-être aussi une tradition qui vient de Yan'an, je dirais. Alors peut-être que Noël et Zhang Yinde ne seraient pas complètement d'accord, mais si on regarde la tradition qui vient de Loussune, qui est quand même une tradition lettrée, en fait, urbaine, qui est une tradition de travail extrêmement précise sur la langue, souvent dans des nouvelles, des textes courts, avec une référence à la littérature occidentale, Moyenne privilégie un genre qui est le roman fleuve et le roman oral, dans un style très oral, avec des formules de conteur, avec des répétitions, qui est peut-être pas sans rapport avec l'appel qui a commencé dans les années 30 et que Mao à Yan'an a encore renforcé, à s'éloigner de la littérature occidentale, intellectuelle du 4 mai et à revenir aux formes nationales. Donc en particulier les formes paysannes, les récits et donc le théâtre local, etc. Donc moi je vois chez Moyenne un petit peu cet héritage-là, même si bien sûr Moyenne a un rapport critique à la tradition de Yan'an. Il y a une part de pastiche, de moquerie, de qui tourne en dérision les formules, enfin les espèces d'utilisation politique de cette tradition. Mais Moyenne a été très critiqué par un universitaire, enfin aussi en Chine, mais en particulier par un universitaire américain qui s'appelle Perry Link, et la critique porte précisément sur ce point-là, c'est-à-dire Perry Link écrit que finalement Moyenne n'a pas fait le deuil du style Mao. Donc, j'ai pas de position très très marquée sur cette question. Je vois bien comment se situe le débat, mais peut-être Noël qui a plongé les mains dans le texte moyennien a un avis plus informé.
Alors, Noël Dutré.
Non, je suis assez d'accord, mais Moyenne n'a pas dit son dernier mot, à mon avis, parce que ce sur quoi il insiste énormément, c'est que à presque chaque roman, je pense même à chaque roman, il invente quelque chose de nouveau. Et Le pays de l'alcool était un roman dans le roman, pastiche, etc., comme l'a dit Sébastien à l'instant. Et puis, Beau-Saint-Belfet, c'est une grande saga historique, je suis d'accord. Mais quand on passe à La dure loi du karma, il a fait ça comme un opéra de son pays. Le supplice du Santal, c'est aussi une forme d'opéra traditionnel. Et puis, dans Grenouille, qui est l'un des derniers qui est sorti, il a dit qu'à la fin, la pièce de théâtre, c'était de style de Jean-Paul Sartre, qui voulait refaire le huis clos de Jean-Paul Sartre. Donc, il s'amuse avec tout ça, et je crois qu'on va être encore surpris si, par bonheur, il n'est pas trop dérangé après l'obtention de son prix Nobel. J'ai l'impression qu'il prend la voie de dire « je ne donne plus d'interview » parce qu'il veut écrire, il veut continuer à écrire.
Alors je vous le confirme, il ne donne plus du tout d'interview pour avoir essayé de le rencontrer à Pékin. Il est devenu député du peuple. On peut s'attendre à un roman parlant du mécontentement populaire en Chine, des inégalités sociales.
Sa première dénonciation, c'est la corruption. Et je me rappelle à la librairie Le Phénix à Paris, on avait présenté avec lui, on avait parlé du pays de l'alcool, et il avait dit que son pays était gangréné par la corruption. Et les étudiants chinois qui étaient là avaient dit « Mais non, vous vous trompez, maintenant ça va beaucoup mieux. » Et il disait « Non, ça va pas du tout beaucoup mieux, je vous assure. » C'était très intéressant de voir qu'il maintient tout à fait son avis à ce sujet-là. Il pense que l'un des problèmes fondamentaux de la Chine, c'est la corruption.
Alors, je voudrais revenir quand même sur la promesse dite par Mo Yanlor de son discours de Stockholm. Il faut espérer qu'il continuera à écrire, puisqu'il a promis de continuer à conter donc, des histoires. Et je pense que sur le problème du langage dont on discute outre-Atlantique, il y a peut-être une lecture un peu cursive de l'œuvre de Mo Yan. C'est vrai que son langage est très très marqué par le style Mao, mais qu'il subvertit d'une certaine manière. Il faudra se rappeler qu'il écrit aujourd'hui, donc dans une époque où le postmodernisme n'a plus de mystère, et il critique donc les travers de la société, l'inhumanité, souvent avec le carnavalesque et avec le burlesque. Et sur le plan linguistique, c'est vraiment le style hybride qui le caractérise, et un style qui intègre le langage populaire, le langage politisé et le langage poétique, parfois donc sous forme assez archaïque. Et alors donc il refait une œuvre fondée sur un registre extrêmement large, donc sur le plan stylistique et linguistique. On critiquait donc ce style un peu hybride et sans regarder vraiment de près, en fait, justement les effets de style extrêmement retravaillés, et pour justement subvertir le slogan politique, mais également le langage publicitaire. Et alors ça, dès les textes bien antérieurs. Et le pays de l'alcool, évidemment, que l'on lit avec plaisir, que l'on relit aujourd'hui, est si magnifiquement rendu en français par Noël Dutrait et Liliane Dutrait. Eh bien, ce texte date de 1993. Et les questions que le roman a abordées, par exemple, la question de la société de petite prospérité ou petite aisance, moyenne aisance, grande aisance, etc., eh bien, il les tourne en dérision. Et ça, c'était en 1993, avant même la mise en avant officielle donc, de ce projet collectif lors du 15e congrès du Parti communiste. Mais seulement après que Deng Xiaoping l'avait évoqué très, très rapidement. Donc, il ironisait déjà sur ce fantasme de la renaissance de la nation, ce fantasme de la puissance, ce fantasme donc de la toute-puissance de la prospérité et de l'argent, justement revenant sur le langage utilisé à l'époque et au début des années 1990, ou bien le langage qui revenait en fait, mais né dans le contexte de la révolution culturelle, etc., que l'on appelle le style maoïste. Et alors c'est pour ça que je pense qu'au contraire, il y a un véritable travail stylistique et l'engager chez Moyen.
Alors pour boucler la boucle et conclure ce débat, Sébastien Vegue, une nouvelle équipe est arrivée au pouvoir. Xi Jinping a été officiellement intronisé le même jour que le pape François. La fiction va retrouver son rôle initial de questionnement du politique.
C'est une vaste question. Xi Jinping et la fiction peuvent se relier à différents niveaux, mais aujourd'hui, la littérature en Chine aujourd'hui est dans une situation un peu paradoxal qui reflète un petit peu la scène intellectuelle dans son ensemble, c'est-à-dire une situation de grande diversité, de grand éclatement, de bouillonnement d'une certaine façon, mais qui aussi est en partie dépassée, j'ai l'impression, par les événements. C'est-à-dire que souvent la réalité dépasse un petit peu la fiction. Même Moyenne n'avait pas pensé qu'il pouvait y avoir 18 000 cochons dans le Huangpu. Ça aurait pu sortir d'un roman de Moyenne, mais c'était pas le cas. Donc le débat intellectuel en Chine est de plus en plus éclaté. Il y a de moins en moins de consensus, il y a de moins en moins de communication entre les différentes sphères de la société, entre les écrivains, le pouvoir politique, les revues. Enfin, c'est aussi une société qui se commercialise à une vitesse absolument incroyable, enfin, comme le disait Zhang Yinde à l'instant au sujet de Moyenne. Donc cette commercialisation touche aussi le monde de la culture et le monde du débat d'idées. Et donc, on est dans une situation où tout le monde est sans arrêt, sous la coupe de multiples pressions qui se superposent les unes aux autres. Et on ne voit pas très bien vers où ça va. Donc la fiction, je ne sais pas quel rôle va jouer la fiction, la littérature ou même le débat intellectuel dans les années à venir. Mais bon, en tout cas, à défaut de fabriquer du consensus, il reste vivant.
Eh bien, c'était le mot de la fin. Sébastien Weg, je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour à Hong Kong, au Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Noël Dutray, je vous souhaite également un bon voyage, puisque vous repartez dans le sud de la France. Quant à vous,
je prends Jean Guénieux, RER.
Bon voyage en RER pour retourner, j'imagine, du côté de Paris 3. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Et donc, on attend la prochaine publication du roman de Moyan. Merci à vous.
Merci.
La Cantre aussi. Mao Zedong. Anna Huangdini.
Yang Yang.
Yang Misuan. Cookie.
Zhao Rongkun.
Alain. Navkoch.
Ainsi s'achève cette grande traversée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao que j'ai eu le plaisir de vous proposer tout au long de cette semaine. Dans un instant, vous retrouverez les bons plaisirs d'Ali Rebéi. Lundi matin, fin des programmes estivaux oblige. C'est la rentrée sur France Culture et vous retrouverez donc dès 9h en lieu et place de votre serviteur, nos camarades habituels, bronzés et reposés, Emmanuel Laurentin et sa fabrique de l'histoire, Adèle Van Riet aux manettes des nouveaux chemins de la connaissance et Florian Delorme pour une nouvelle saison de Culture Monde. Mais en attendant, c'est encore un peu l'été sur France Culture. Alors